Bonjour Alain Gossin. Je voulais parler un petit peu de musique de l'imaginaire, ce livre que vous avez sorti avec Michel Tozzi. Et une question qui me vient à l'esprit, mais comment s'est fait la rencontre avec Michel Tozzi ?
Alors, très simplement, à la sortie de concert, nous sommes rencontrés. C'est une femme qui est souvent, qui assiste aux concerts de musique contemporaine, c'est une fidèle. Elle le fait par rapport à son métier, tout simplement, parce que elle fait des critiques de ses concerts, et la rencontrant souvent après un concert, dans ces lieux où on l'en parle, la discussion s'est engagée, et puis le livre est apparu. Il y a une espèce d'évidence pour qu'elle me dise oui, ok, on va faire un livre sur ta musique. Elle disait une chose d'ailleurs que beaucoup de personnes me disent, que ma musique n'est pas suffisamment reconnue en France à son juste niveau, me disait-elle. Donc faisons ce livre et essayons de voir comment on peut le faire. Et à la suite de ça, on s'est rencontrés après. On a eu deux rendez-vous dans des cafés pour voir comment on pouvait mettre une stratégie, ou comment on pouvait élaborer quelque chose autour de ma musique et quels seraient les points forts. Voilà, c'est comme ça s'est fait, très simplement.
L'autre question qui me vient, c'est, vous aviez défini un plan, ou le plan s'est construit progressivement au fil du temps, au fil des conversations?
Alors, les conversations ont eu lieu, comme je vous l'ai dit, dans ces rencontres au café, mais c'était très informel, c'est-à-dire qu'elle connaissait un peu ma musique, mais pas en profondeur. Donc, dans ces premières discussions, c'était d'abord une sorte de discussion très libre et sur toute ma musique, et le plan s'est dessiné, finalement, si j'ai compris un peu cette aventure, au fur et à mesure. Elle arrivait, je me souviens, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans, elle venait une fois par mois ici, là d'ailleurs là où vous êtes, et elle m'enregistrait, et elle avait déjà un plan. Elle avait une ou deux questions, pas plus. Et autour de ces deux questions, je répondais évidemment à ces deux, à ces deux types de questions. Une qui concernait, je pense par exemple à ma poésie, l'autre qui concernait plus mon travail sur l'harmonie, l'autre plus sur le temps musical, l'autre sur... Enfin bon, à chaque fois elle abordait des thèmes différents. Maintenant, c'est vrai que dans ces discussions, vu qu'on passait pratiquement, au moins 3 heures, en tout cas, dans chacune de ces discussions. Évidemment, les thèmes abordés n'étaient pas exclusifs. Disons qu'on allait dans d'autres questions qui n'étaient pas posées, ou moi-même, d'ailleurs, en répondant à ces questions, je m'aventurais dans d'autres zones. Et ce n'est qu'après, sept, huit séances qu'on a pu faire ensemble, qu'elle a évidemment fait une synthèse, et qu'elle a après reconstruit un petit peu les questions qu'elle avait faites. Je crois que c'est comme ça que ça s'est fait.
Et l'autre question qui me vient, c'est, j'ai l'impression que vous appartenez à la génération spectrale qui me semble peut-être marquante à une certaine époque, dans les années 70. Pourriez-vous me dire qu'est-ce que représentait en fait pour vous cette génération, puisque à la lecture du texte, on a plutôt l'impression que vous n'appartenez pas à ce courant, mais comment ça se passait? Comment vous voyez ce moment d'une génération?
Oui, alors c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai connu évidemment très bien le spectralisme, puisque je l'ai vu naître. J'étais dans la classe de Messiaen dans les années 70, donc j'ai très bien connu tous les compositeurs qui essayaient de trouver une nouvelle dimension dans la musique. Je les ai côtoyés, mais je n'ai pas adhéré à leur système, pour la raison essentielle, c'était la question du temps et la question des processus qu'ils engageaient. Alors j'ai bien compris que ce qu'ils souhaitaient, c'est évidemment renouveler l'écriture musicale et se sortir des dictats de la musique sérielle. Et ça, évidemment, j'étais complètement d'accord avec eux, parce que effectivement, cette école sérielle me paraissait inaudible. Par contre, leur nouveau critères esthétiques au niveau du temps ne me convenaient pas, parce que on ne peut pas définir un temps musical de façon arbitraire. La musique, un matériau musical peut se développer suivant les outils qu'on a, suivant les idées que nous avons, mais en aucun cas on peut de façon arbitraire décider qu'on va d'un élément A à un élément B, on va décider que ça va faire 5 minutes ou 10 minutes, et puis quoi qu'il arrive, on fait ces 5 minutes ou ces 10 minutes qu'on a décidé a priori. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Donc moi, j'ai travaillé dans mon coin. Par contre, j'ai essayé de, comme eux, alors, de faire ce travail sur le matériau sonore, parce que effectivement, on était dans une période où on cherchait comment travailler la texture sonore. Un matériau sonore, ça peut se travailler. Comment peut-on donner en même temps qu'une idée d'harmonique, mais une idée qui dépasse l'harmonie, c'est-à-dire qu'on rentre dans d'autres dimensions musicales. Mais ce que j'ai observé évidemment avec le temps, c'est qu'effectivement cette question du temps a été très bien comprise par ces compositeurs. Je pense aux discussions que j'ai pu avoir avec Tristan Murailles, avec Rizet à l'époque où je leur parlais de ces questions-là. J'ai très bien vu qu'ils ont changé évidemment ce rapport au temps. C'est-à-dire que c'est devenu beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible dans leur composition. Et bon, c'est vrai qu'après, dans les années, on va dire, ça s'est commencé à partir des... En tout cas, ce qui me concerne, dans les années 85-90, je suis revenu un petit peu au spectralisme, mais non pas comme eux le font, évidemment, avec les outils informatiques et sur la synthèse qui puisse opérer sur un seul son ou sur un seul timbre, mais sur la conscience harmonique. En fait, moi, je suis revenu un peu à leur écriture, mais à cette conscience harmonique, justement, par le biais de cette école spectrale, si on peut dire. Voilà. Et ça s'est fait pour ma part dans les années 90, et je m'en souviens très bien à l'époque où j'ai composé cette grande pièce d'orchestre s'appelle Année Lumière, qui est une commande de l'Orchestre de Paris que m'avait donné Daniel Barenboim, que m'avait proposé en tout cas Daniel Barenboim. Évidemment, je suis revenu à une notion musicale où l'harmonie en tant que telle s'échappait un peu du travail de la texture sonore dans lequel j'étais complètement investi précédemment.